des lois et peut-être aussi plus de moyens pour le PNF, le parquet national financier créé en 2014 qui traque les grands délinquants au col blanc et il n'en manque pas, Charlotte.
Des lois, un meilleur encadrement, c'est précisément ce que demandent les ONG Transparency International et Global Witness qui luttent contre le blanchiment d'argent. Car les visas dorés ouvrent les portes de l'Europe aux riches investisseurs, mais aussi aux criminels huppés du monde entier et incitent à la corruption des États. C'est ce que va nous expliquer Laure Briot, co-auteur du rapport dans les eaux troubles des visas dorés.
Les passeports, le nouveau jouet des ultra-riches pour voyager dans un monde sans frontières.
Terminus en Espagne, où le gouvernement, pour attirer les riches investisseurs étrangers, offre un visa en or, un golden visa.
Le voilà, ça c'est mon golden visa.
Il fait bon vivre à Malte. C'est un pays stable et démocratique. Ça vous tente? Devenez membre de la grande famille européenne.
It's very clear. If a terrorist comes here, if a criminal comes here, the government has the right to give them a passport. There's no problem with that.
Laure Briot, vous êtes donc chargée des questions anti-blanchiment pour l'ONG Transparency International et vous êtes co-auteur d'un rapport qui est sorti il y a un mois sur les visas dorés, dans le monde trouble des visas dorés. C'est une pratique controversée mais légale et qui s'est beaucoup développée au sein de l'Union européenne ces dernières années. Ça fait longtemps que ça existe dans les Caraïbes, mais là c'est au sein même de l'Union européenne.
Effectivement, en Europe, la pratique est plus récente. Elle date de l'après-crise en 2007, au moment où un certain nombre de pays européens ont dû renflouer les caisses. Et donc, ça a été une façon assez rapide et efficace d'attirer l'investissement étranger. Et donc, effectivement, les pays qui proposent des programmes les plus attractifs, voire les plus agressifs, ce sont les pays qui ont le plus souffert de la crise. Donc, on a Malte, Chypre, le Portugal, mais également l'Espagne et la Grèce. Plus de 6000 passeports ont été accordés en majorité par Chypre et Malte et plus de 100 000 nouveaux résidents en Europe par le biais de ces programmes depuis qu'ils ont commencé.
Alors combien ça rapporte ?
Il est difficile de trouver des données officielles publiées. Et donc le chiffre est assez conservateur, mais plus de 25 milliards d'euros générés par le biais de ces programmes en Europe. Et pour les pays donc l'Espagne, le Portugal, on est dans les 4 milliards, 5 milliards générés depuis le début de ce programme, dans la dernière décennie. Pareil pour Chypre, ça va être 4,8 milliards.
Donc c'est un business très, très lucratif.
Exactement. Le ticket d'entrée en Europe, ça peut varier de 250 000 euros pour un permis de résidence en Grèce ou en Lettonie à 2 millions d'euros pour un passeport chypriote. Les programmes européens sont les plus chers, entre guillemets, sur le marché. Ça représente la gamme élevée du marché parce que les avantages associés, parce que les privilèges qui en découlent sont plus importants. C'est le nouveau sésame. L'important pour un homme d'affaires ou autre, c'est la mobilité. C'est de pouvoir se déplacer n'importe où en Europe, n'importe où dans le monde. Et un passeport européen, pour ça, c'est beaucoup plus facile qu'un passeport, disons, russe ou chinois. On n'a pas besoin de demander un visa pour chaque pays. C'est la possibilité, donc, de pouvoir bouger pour faire des affaires et éventuellement pour échapper à des poursuites judiciaires dans son propre pays.
Le journal portugais Expresso, tout comme le quotidien britannique The Guardian, a révélé le nom des bénéficiaires d'un programme de visa doré au Portugal.
La majorité des quelques 20 000 bénéficiaires de ces visas dorés hongrois sont soit des Chinois, soit des Russes. Et pas n'importe quel Russe, des membres de l'élite, tous proches du pouvoir poutinien.
Parmi eux, plusieurs chefs d'entreprise impliqués dans un scandale de corruption au Brésil, dont Otávio Acevedo.
On y trouve les proches de plusieurs oligarques, la famille de certains mafieux notoires.
Figurent aussi dans cette liste certains membres de la famille de Manuel Vicente, le vice-président de l'Angola, accusé de corruption.
Alors, ce que vous dites dans ce rapport, c'est qu'en plus de faciliter l'évasion fiscale en permettant d'établir une résidence dans un paradis fiscal, ces visas dorés, ils sont aussi très prisés des individus ou des organisations corrompues, voire carrément criminelles, parce qu'ils permettent de masquer des manœuvres, alors là, franchement illégales, parce que ces hommes d'affaires, ces hommes puissants corrompus, peuvent venir circuler librement dans l'Union européenne, blanchir l'argent issu de la corruption, l'argent sale, et même, ce que vous disiez, fuir la justice de leur pays.
Oui, c'est vraiment l'angle par lequel on a abordé cette question. Ce genre de programme, le gros avantage, c'est qu'ils offrent une procédure accélérée. L'objectif pour rendre le programme attractif, c'est de réduire les délais. Et donc, on réduit d'autant le niveau de contrôle du profil des demandeurs. Et on s'est rendu compte que pour un certain nombre de programmes, le niveau de contrôle et de sécurité n'était pas garanti. On a affaire à des profils à haut risque, des personnes très riches qui investissent un montant conséquent, qui sont parfois des personnes politiquement exposées dans leur pays, et le niveau de contrôle ne correspond pas. On vérifie à peine le casier judiciaire, on ne regarde pas le milieu des affaires, l'origine du patrimoine, l'origine des fonds qui sont investis, etc. Et donc, on a observé un certain nombre de cas où la procédure avait laissé passer des cas avérés, donc de par exemple des hommes d'affaires brésiliens impliqués dans le Lava Jato qui avaient réussi à obtenir un permis de résidence au Portugal, un Chinois qui était sur la liste d'Interpol et pareil, qui avait pu rentrer au Portugal, Rami Mahlouf, un proche de Bachar al-Assad, qui est pourtant sur les listes de sanctions américaines et européennes, qui avait réussi à obtenir un passeport chypriote, etc. On a vraiment un certain nombre de cas qui sont sortis dans les médias ces derniers mois.
Malte, le 16 octobre 2017. La journaliste Daphne Caruana Galizia est tuée dans un attentat à la voiture piégée.
Daphne Caruana Galizia avait beaucoup d'ennemis. Elle avait dénoncé tour à tour le président d'Azerbaïdjan et plusieurs membres du gouvernement maltais, les accusant de corruption, de malversation.
C'est la première fois qu'un journaliste est victime d'un attentat à la voiture piégée au sein de l'Union européenne.
Elle avait beaucoup d'ennemis. Il y avait les gros et les petits calibres. Les petits étaient du genre à passer des coups de fil méchants. Les gros calibres sont ceux qui ont pu payer pour mettre une bombe sous sa voiture.
La journaliste Daphne Caruana Galizia, maltaise, qui s'est fait assassiner l'année dernière, enquêtait également sur le programme maltais et avait mis à jour un certain nombre de problèmes liés à la corruption du programme.
Des pots de vin qui auraient été versés au cabinet du Premier ministre pour accélérer justement l'obtention de ces visas.
Exactement. Des échanges de pots de vin entre des proches de Skembri et le chef de cabinet, un montage avec financier avec des sociétés offshore pour permettre de siphonner l'argent issu de ces programmes. Et un autre des risques associés à ces programmes, donc il y a le problème du manque de contrôle, mais il y a aussi un problème de gouvernance et d'opacité, de manque de transparence dans la prise de décision pour décider de laisser rentrer quelqu'un ou pas en Europe. Le problème, c'est que ces États ne prennent pas des risques simplement pour eux-mêmes et leurs citoyens, mais également pour les autres États membres et pour l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est vraiment la sécurité et l'intégrité de l'Union européenne qui est en jeu. On a vu un cas d'école parfait il y a quelques mois, juste avant qu'on sorte notre rapport, où les autorités finlandaises ont arrêté un Russe pour des soupçons de blanchiment d'argent dans le secteur immobilier. Et ce Russe détenait un passeport maltais obtenu en 2015. Et il était également détenteur d'un visa doré hongrois. Donc on voit vraiment que c'est une problématique européenne qui nécessite une solution européenne. Et l'autre risque pour l'Union européenne, c'est des États membres encouragés à aller à la course au moins 10 ans en termes de standards pour essayer d'être le plus attractif sur le marché des passeports dorés. Les demandeurs de visa vont aller faire du passport shopping et essayer de trouver la juridiction qui offre l'offre la plus intéressante pour eux. Donc moins de contrôle et le moins cher possible, les délais les plus courts possibles, etc. Il y a un risque non seulement de faire rentrer des personnes au profil un peu douteux, mais également des risques de corruption de l'État lui-même. On a vraiment un système opaque qui, dans sa conception même, favorise la corruption, les risques de blanchiment, etc.
Scores of Russian millionaires are building new lives in the European Union as proud Maltese citizens.
It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.
Just because you can, man.
Ain't no refuting or disputing, I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Discussion, dance like you got concussion. Oh, put a doll inside.
seduction. Party like a rational. Have it like an oligarch.
Malta is among those EU governments which are flat out selling passports to anyone who can afford them. The governments actually market it with golden visa expos.
It's a prostitution of the Schengen system.
L'Union européenne doit s'attaquer au problème des visas dorés. En réalité, ces programmes permettent aux criminels et aux fraudeurs de blanchir leur argent, de se refaire une virginité et d'importer leur trafic au sein de l'espace Schengen. Oui, les États sont souverains en matière d'attribution de la nationalité. Mais quand l'espace européen de liberté, de justice et de sécurité est menacé, l'Union européenne se doit d'agir. C'est pourquoi la Commission doit, sinon les interdire, au moins les encadrer.
Mais alors, est-ce que l'Union européenne est quand même en train de se rendre compte du problème? Parce que Eva Joly dénonce les énormes scandales de corruption liés à ces visas dorés. La députée européenne du Portugal, Ana Gomes, elle parle de prostitution de l'espace Schengen. Est-ce que on est en train de prendre un peu la mesure du problème?
Oui, le Parlement européen qui a sorti un rapport récemment sur le sujet. Alors nous, en tant qu'activistes anticorruption, on demande un renforcement des règles et de la réglementation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de corruption et de blanchiment. Eux vont beaucoup plus loin en demandant l'abolition de ces programmes. Côté Commission européenne, on attend encore le rapport qui doit sortir mi-décembre et on espère que les recommandations seront ambitieuses. On voit aussi les lignes bouger du côté des pays membres, alors plutôt les pays qui n'ont pas de programme ou dont les programmes ne sont pas risqués, qui commence à s'interroger un peu sur le bien fondé de ce genre de programme. Et surtout pour les programmes qui marchandisent la citoyenneté européenne, la question se pose de éthiquement et moralement, est-ce que la citoyenneté européenne devrait être à vendre? Avoir des programmes qui favorisent l'investissement, c'est sûrement une bonne chose, mais effectivement mettre un certain nombre de garde-fous et de contrôles pour s'assurer qu'on attire les meilleurs et pas les pires escrocs.
Le rapport dans les eaux troubles des visas dorés est disponible sur le site internet de Transparency International en anglais. Et l'OCDE s'intéresse également de près à ces programmes et à leurs dérives, côté évasion fiscale cette fois.